Soyez les bienvenus, le journal. Bonjour Adrien Taufolet.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les départs en vacances sont toujours difficiles ce matin pour les usagers du train, car comme hier, les perturbations sont importantes sur le réseau. Les conducteurs, les contrôleurs exercent à nouveau le droit de retrait suite à l'échec des négociations entre la direction de la SNCF et les syndicats. Les autres titres, Adrien.
Journée décisive et peut-être historique au Royaume-Uni. Les députés doivent dire oui ou non à l'accord surprise de sortie de l'Union Européenne négocié par Boris Johnson. Certains Britanniques, vous l'entendrez, espèrent enfin pouvoir tourner la page du Brexit. Le chaos à Barcelone, théâtre d'affrontements violents cette nuit entre militants indépendantistes radicaux et forces de l'ordre. Et puis, fin de la première phase du procès des Balkany, condamné à la prison. Place maintenant à la demande de remise en liberté et à l'appel.
L'invité à partir de 8h20 ce matin, Olivia Grégoire, la députée La République En Marche de Paris. Elle est aussi vice-présidente de la Commission des Finances. Avec elle, on va commenter ce matin le projet de loi de finances 2020.
France Inter.
Désordre dans les gares de France ce matin. Au rush des vacances s'ajoute l'inconnu et le stress d'une deuxième journée de droit de retrait des conducteurs et contrôleurs. La direction de la SNCF et les organisations syndicales ont négocié pendant 5 heures hier soir sans succès. Les syndicats demandent qu'un agent SNCF ne soit jamais seul dans un train, comme c'était le cas mercredi dans les Ardennes quand un TER a percuté un camion sur un passage à niveau. Une situation très répandue, devenue intenable pour certains. Louis-Valentin Lopez.
Lorsque les conducteurs arrivent à la gare de Reims, ils pointent, puis font immédiatement valoir leur droit de retrait. C'est le cas de cet agent qui conduit des TER dans toute la région, excédé d'être seul à bord.
Un jour, j'ai eu quelqu'un qui est venu toquer la cabine pour acheter un billet.
Le conducteur déplore une surcharge de travail.
Quand il y a du retard ou si on est arrêté en pleine voie pour tel ou tel motif, il faut penser à faire l'annonce, informer les voyageurs. Mais normalement, c'est pas au conducteur de le faire. Nous, on doit assurer la sécurité du train.
Assurer la sécurité du train est donc pas possible d'assurer la sécurité dans le train, d'où l'importance des contrôleurs. Christine Perardel-Guichard préside une association de voyageurs, le comité de défense des intérêts des usagers.
C'est aussi une présence en matière de sécurité, notamment dans des trains du soir où il y a moins de voyageurs. Le conducteur, lui, conduit son train, le contrôleur, lui, a un autre métier. Pour moi, il est essentiel également sur ces lignes.
Jean-Claude, lui, en a vu passer des mouvements sociaux.
J'ai travaillé à la SNCF pendant 35 ans.
Selon lui, les agents arrivent à saturation.
L'an dernier, il y a eu 4 mois de grève, c'était pour ces raisons-là. Ils ne voulaient plus mettre de contrôleurs dans les trains. La colère, elle grandit. Et voilà le résultat.
Et aujourd'hui, ce sont 8 trains régionaux sur 10 qui circulent sans aucun contrôleur à bord.
Et côté trafic, aujourd'hui, la situation sera très sensiblement identique à celle d'hier, prévient la SNCF, avec en moyenne un peu plus de la moitié des TER en circulation au niveau national. Des grosses perturbations à prévoir également sur les Transiliens RER et TGV. Aucun Ouigo ne circule sur tout le territoire.
On l'a souvent dit depuis le début de la crise du Brexit, mais aujourd'hui encore, ce sera le jour J pour le Royaume-Uni.
Les regards sont tournés vers la Chambre des communes qui doit se prononcer aujourd'hui sur l'accord de Brexit, accord arraché laborieusement à l'Union européenne par Boris Johnson. Le Premier ministre va tenter jusqu'au dernier moment de convaincre les députés réticents, conservateurs et travaillistes rebelles de soutenir son texte, mais rien n'est joué. Boris Johnson n'a plus de majorité au Parlement. Résultat, les Britanniques, pro ou anti-Brexit, retiennent leur souffle après 3 ans de débat. L'accord de Theresa May, rejeté à 3 reprises également. Les deux camps espèrent que le feuilleton va enfin s'arrêter. Reportage d'Antoine Géniaud à la descente de l'Eurostar à la gare de Londres.
Egon et Brady sont retraités. Elles ont toutes les deux de la famille en France, mais l'Europe, elle n'y croit plus. Et ce vote des parlementaires, c'est pour elles la dernière chance de respecter le résultat du référendum de 2016.
On a attendu tellement longtemps. Il y a eu tellement de propositions rejetées. Il est vraiment temps qu'on quitte l'Europe. On essaye de nous empêcher de sortir, mais il y a eu un vote démocratique et on a voté pour partir.
Derrière elle, Dave, responsable de la communication d'une grande entreprise, revient de Paris. Il hésite entre colère et ricanement nerveux.
L'ignorance et des mensonges, voilà tout ce que le gouvernement britannique nous apporte. C'est stupide, stupide. C'est juste une énorme blague.
Une blague qui ne fait plus vraiment rire face au micro. Beaucoup de Britanniques ne veulent même plus parler du Brexit. Le dernier sondage YouGov montre que 2 personnes sur 5 demandent aux parlementaires de valider l'accord négocié par Boris Johnson. 1 sur 5 espère qu'ils voteront contre. Les autres ne savent pas quoi penser, mais presque tous partagent l'opinion de Becky. Elle espère une décision, n'importe laquelle, parce que, dit-elle, le sujet devient douloureux et embarrassant. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et s'il est voté, l'exécutif présentera dès lundi le projet de loi destiné à mettre en œuvre le Brexit pour quitter l'Union européenne le 31 octobre comme prévu. La défiance des élus démocrates au Congrès américain envers Donald Trump. L'opposition s'insurge de voir le président américain vouloir organiser le prochain sommet du G7 dans un de ses clubs de golf en Floride. Une proposition de loi a été déposée pour bloquer tout financement public du sommet. Texte cocassement baptisé le SUG Act. SUG, acronyme de le coup de Trump nuit au G7, en français SUG, qui veut dire en anglais voyou.
En Espagne, des images de chaos cette nuit dans les rues de Barcelone.
Jets de pierre contre gaz lacrymogène et canons à eau, des barricades érigées, de nombreux feux allumés sur une place de Catalogne méconnaissable. Barcelone, théâtre d'affrontements violents entre militants radicaux et forces de l'ordre après une journée de manifestations pacifiques. 500 000 indépendantistes catalans mobilisés contre la condamnation à la prison de 9 de leurs anciens dirigeants. Gens sécessionnistes. Thibault Lefebvre a passé la soirée avec les émeutiers.
Des émeutiers très jeunes, habillés en noir et masqués, qui ont défié les forces de l'ordre. Martha et Albert fuient une charge policière. Toute la soirée, ils ont lancé des pierres et enflammé des barricades.
Tu la vois où, la violence? Je la vois du côté de la police, des deux polices, la police nationale espagnole et la police catalane. Elle est là, la violence.
Ce n'est pas un combat pour l'indépendance, c'est un combat contre le fascisme.
Et aussi un combat de classe.
Derrière les quelques dizaines d'émeutiers anti-système, des milliers de militants indépendantistes venus des quatre coins de la Catalogne pour manifester. C'est le cas de Gina, 20 ans, drapeau bleu, rouge et jaune sur les épaules. Elle avoue, par moments, avoir eu très peur.
Il y a deux groupes, et tu dois savoir avec quel groupe tu te trouves. Nous, nous sommes ici avec les manifestants, et là-bas, il y a ceux qui veulent en découdre avec la police. Ce sont des gens qui ont laissé derrière les valeurs catalanes pour s'opposer à la police et ne plus suivre les objectifs que nous partageons tous.
Le calme est revenu dans la nuit. Le cœur touristique de Barcelone est désormais ravagé, avec du mobilier urbain à terre et des dizaines de vitrines brisées.
Et à des centaines de kilomètres de là, l'avenir du couple Balkany, de nouveau scellé par la justice hier avec une deuxième condamnation. C'était le volet blanchiment de fraude fiscale de l'affaire cette fois. Lui condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt qui s'ajoute à la peine de 4 ans pour fraude fiscale qu'il a déjà commencé à purger. Elle condamnée à 4 ans de réclusion, mais elle reste libre en raison de son état de santé. Ajouté à cela, les deux reçoivent encore une peine de 10 ans d'inéligibilité. Le couple sans surprise va faire appel, mais avant cela, mardi prochain, la justice va se pencher sur une demande de remise en liberté de Patrick Balkany, Charlotte Piret.
Les avocats de Patrick Balkany avaient déposé leur demande de remise en liberté dans la foulée du prononcé de sa première condamnation et de son incarcération à la maison d'arrêt de la Santé. C'est donc cette demande qui sera examinée mardi par la Cour d'appel de Paris, qui devra ensuite rendre sa décision avant le 13 novembre prochain. Mais même si cette décision est favorable à la remise en liberté du maire de Levallois-Perret, cela ne signifie pas qu'il pourra pour autant quitter la prison parisienne, car un nouveau mandat de dépôt a été prononcé hier en marge de sa deuxième condamnation à 5 ans de prison ferme pour blanchiment aggravé de fraude fiscale cette fois. Et il apparaît hautement improbable qu'une deuxième demande de remise en liberté puisse être examinée dès mardi. Reste la question d'une libération à moyen terme, avant le début de la campagne des municipales de 2020 par exemple, auquel, s'il est libre, Patrick Balkany peut tout à fait se représenter. L'appel des deux jugements suspendant ces deux condamnations à 10 ans d'inéligibilité. À moins qu'une condamnation en appel survienne d'ici là, rendant alors définitive une peine d'inéligibilité.
Un procès en appel qui pourrait se tenir du 11 au 18 décembre prochain. En ouverture de la 10e journée de Ligue 1 de football, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse de Nice hier, 4-1, avec à noter le retour de blessure de l'attaquant Kylian Mbappé. 6 rencontres aujourd'hui avec notamment Nantes, 2e du championnat derrière Paris, qui affrontera Metz. Et puis du rugby, début des quarts de finale du mondial au Japon. L'Angleterre joue l'Australie tout à l'heure et la Nouvelle-Zélande l'Irlande. Demain, ce sera le tour des Bleus qui affronteront les Pays de Galles et le Japon, la nation hôte qui reçoit l'Afrique du Sud. Et on n'oublie pas la 8e journée de Top 14 aussi, bien entendu, avec 6 matchs disputés. Ça commence à 15h30 avec Montpellier-Toulouse.
Et de tout cela, on en parlera en détail dans le journal des sports, journal complet des sports à partir de 8h10, dans une heure donc. C'était le journal d'Adrien Toffolet. Le temps.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Que d'eau, Jean-Michel Golinski. Beaucoup de pluie, de la Méditerranée jusqu'au flanc est.
Ah, exactement, Eric, avec aujourd'hui des cumuls de précipitations importants sous les averses orageuses de la région PACA en remontant vers les Vosges, également des Cévennes à l'Auvergne. Demain, les fortes pluies vont surtout circuler sur le Languedoc, l'Ardèche et la basse vallée du Rhône. Le tout sera poussé par un vent de secteur sud très turbulent. Et puis sur le reste du pays, la pluie sera également au rendez-vous ce week-end. Des pluies durables sur un axe sud-ouest-nord-est se renforçant ce soir par l'Aquitaine. Le ciel aura tout de même un meilleur aspect aujourd'hui du Roussillon à l'est du Midi-Pyrénées. Et puis au nord de la Loire, l'ambiance va devenir plus variable en journée, mais avec un régime d'averse. Les températures, un peu comme hier, vont évoluer entre 15 et 17 degrés dans la moitié nord, 20 à 25 du sud-ouest au pourtour méditerranéen.